C'était une sorte d'île située entre la mer et les Tonto.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre set.
On y va ?
Allez,
on y va.
Sophie Garayoa, bonjour.
Bonjour Yves.
Avec Racontez-nous votre set, je vous propose un entretien convivial pour notre plaisir à tous les deux et surtout, nous l'espérons, pour celui des auteurs de Radio Divergence. Sophie, si je peux me permettre de vous appeler par votre prénom, vous vivez à Sète depuis 10 ans et vous y êtes installée pour vous occuper de la librairie sétoise que vous avez rajeunie et qui s'appelle maintenant la nouvelle librairie sétoise.
Non, c'est pas tout à fait ça.
Vous êtes originaire de Bordeaux. Et avez vécu 10 ans à Paris. Mais dites-moi, Sophie Garayoa, votre nom est d'origine basque, non ?
Oui, c'est un nom qui trouve ses origines en Espagne et dans la région du nord de Pampelune, en tout cas.
C'est ça. Et en plus, ça veut dire en hauteur.
Paraît-il.
Voilà.
Le petit champ en hauteur.
Voilà.
Oui, sans doute des origines rurales, rien de
voilà.
Très...
Mais vous êtes né à Bordeaux et pas en Espagne.
Oui, je suis née à Bordeaux. Mon père était fils de réfugiés républicains.
Ah,
sa mère, oui, une histoire.
Ils sont partout. Les pauvres qui ont été si mal accueillis.
Et sa mère était elle-même d'origine espagnole, mais elle était née déjà à Bordeaux, donc d'une immigration antérieure, plus économique, bien avant la guerre. Voilà.
Oui, d'accord. Alors, je vous ai vu réagir.
Oui, oui, en fait, c'est une inexactitude. La librairie sétoise, c'est toujours appelée la nouvelle librairie sétoise.
Ah, d'accord.
Elle a été créée en 1981 par mes prédécesseurs, Noël et Jean-Mathieu Hich.
Oui.
Et quand je l'ai rachetée en décembre 2014, j'ai conservé ce nom. Qui ne veut pas dire grand-chose, sauf que voilà, la librairie est toujours, tous les jours, nouvelle.
Elle se renouvelle perpétuellement.
On essaye.
Mais pourquoi vous avez choisi cette quelle idée d'arriver ici Vous étiez parisienne.
J'étais pas parisienne. J'ai vécu 10 ans à Paris, j'ai terminé mes études, j'ai commencé à y travailler. Et j'ai échoué à cette... par un ensemble de convergences, de circonstances dont une partie ne m'appartenait pas, on va dire. Je me suis d'abord installée à Montpellier pour des raisons professionnelles. Je travaillais dans le secteur du livre, mais plutôt dans les politiques publiques. J'ai travaillé pendant un an et demi à l'Agence du Livre à Montpellier. Et cette idée de devenir libraire me trottait dans la tête depuis longtemps. Et c'est à l'issue de cette expérience à Montpellier que je me suis sentie bien capable de mener ce projet, de le mener seule. Je me suis dit longtemps, mais il faudrait que je rencontre un partenaire, un associé pour faire ça. Seule, je ne m'en sentais pas forcément capable. Et il est arrivé à un âge et un certain nombre d'expériences professionnelles où je me suis réveillée un matin en me disant, si en fait, meuf, tu peux le faire toute seule, vas-y. Donc j'ai d'abord cherché une librairie à racheter, puisque en même temps, j'ai rencontré l'homme qui allait devenir le père de mon fils. Donc, je ne voulais pas quitter la région. J'ai cherché et j'ai trouvé tout de suite. C'est-à-dire que la première annonce que j'ai découverte et qui ressemblait à une librairie, c'était la nouvelle librairie à 7. Donc, je n'ai pas cherché plus loin. C'était juste parfait. J'étais dans la région. 7, je connaissais pour y être allée à plusieurs reprises depuis Montpellier. La librairie avait la taille parfaite pour la gérer seule, ni trop petite, ni trop grosse. La transmission a pris un an et on a signé avec Noël et Jean-Mathieu en décembre 2014.
Ils prenaient leur retraite ?
Ils prenaient leur retraite, absolument.
Oui, donc c'était une passation plutôt bien.
Oui, super. Ils étaient ravis de me rencontrer et j'étais ravie de les rencontrer. On s'est tout de suite bien entendus. Ça a été une association de cœur autour de l'amour du livre et puis de la volonté de faire perdurer ce commerce qui est finalement un commerce historique de la ville. Hein. Quand on regarde 1980, il y a quand même peu de commerces qui vont bientôt fêter leurs 50 ans. Enfin, c'est un commerce historique de la ville.
Ah ben oui, oui, oui. Mais alors dites-moi, pourquoi libraire ?
Pourquoi libraire ? Il m'a semblé que c'était une très bonne façon de travailler avec le plus d'indépendance possible. Alors, on pourra revenir sur cette question d'indépendance qui est très compliquée, mais il est arrivé un moment dans mon parcours professionnel, le constat que je n'étais pas forcément une bonne salariée. En tout cas, ce n'était pas forcément la meilleure place pour moi. Je ne sais pas si d'ailleurs c'est la meilleure place pour qui que ce soit. Ce n'est pas évident d'être salariée, je pense que ça l'est de moins en moins. C'est très difficile de travailler aujourd'hui.
Vous êtes un peu rebelle.
Ouh là là, vous allez vite en besogne. J'essaie d'avoir un œil critique sur, sur ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, notamment. Et je sais qu'être salarié, ce n'est pas évident. Et pour moi, ça a été compliqué. Je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ma place. Et les livres, en tout cas, la compagnie des livres, ça, c'était une évidence. Il était évident que je me sentais bien entourée de livres. Être libraire, avoir ma propre librairie... m'a semblé être une des bonnes places pour moi professionnellement. Et 10 ans après, je pense pouvoir dire que je ne me suis pas trompée.
D'accord. Et alors, c'est quoi le plaisir d'être libraire ? C'est les livres, la relation avec les gens qui aiment les livres ?
Oui, il faut autant aimer les livres que les gens, effectivement, Yves, tout à fait. À parts égales, selon les jours, c'est pas toujours évident. Hein, on est entouré aussi de livres qu'on aime moins. Hein. Je parlais de la question de l'indépendance tout à l'heure, c'est une question importante aujourd'hui. Hein, je pense évidemment à Monsieur B, qui a tendance à vouloir étaler sa toile jusqu'où il peut. Et puis nous, on se retrouve dans cette toile et on essaye de proposer autre chose, de donner à voir une diversité littéraire, des choses plus difficiles, moins évidentes, mais qui apportent, si on s'en donne un petit peu la peine, si on est peut-être un peu accompagné, plus de justesse et plus de joie. Les rencontres humaines, c'est pareil. Hein. Il y a des rencontres qui sont évidentes, il y a des clients avec lesquels c'est un bonheur de les voir passer la porte, et puis d'autres personnes avec qui c'est plus compliqué, avec qui la relation prend plus de temps.
Mais je voulais vous poser une question, puisque vous êtes une professionnelle, parce que c'est une question qui est un peu compliquée, à laquelle moi j'ai du mal à répondre. Est-ce qu'on a le droit, si on est libraire, de refuser de vendre un livre ?
Alors, quand je rencontre mes représentants, ce qui m'arrive plusieurs fois par semaine, les représentants viennent dans les librairies, dans toutes les librairies de France, presque toutes les librairies de France, et ils présentent des catalogues avec toutes les nouveautés à paraître dans les 3 ou 6 prochains mois. Un libraire indépendant, son métier, c'est de faire des choix dans tous les livres qu'on lui propose.
Ben oui.
Donc, ne pas acheter des livres fait partie de mon travail.
Eh ben oui.
Voilà. Donc, des choix, j'en fais tous les jours.
Donc, c'est possible.
Donc, c'est ma grande liberté.
Donc, c'est possible.
Bien sûr.
Ben alors, quel est le problème ?
Il n'y a aucun problème, sauf que quand un éditeur, des éditeurs finissent par tous faire partie du même empire industriel,
qu'ils
appartiennent au même groupe,
oui.
On peut être en droit de se poser la question de leur propre indépendance à eux. Pose la question de l'indépendance de l'édition. Je suis libraire indépendante, je tiens à faire vivre les éditeurs indépendants.
D'accord.
Qui eux-mêmes prennent des risques, eux-mêmes font des choix.
D'accord.
Si je me retrouve à ne devoir qu'à travailler qu'avec des maisons d'édition ou des empires éditoriaux industriels qui, eux, ont pour mission de vendre le moins de livres possible au plus grand nombre.
D'accord.
On ne parle pas la même langue, on n'a pas le même projet, vous voyez.
Mais c'est marrant parce que j'ai vu à l'aventure d'une librairie à 7 qui a été faite en 1981, un petit panneau affiché avec grosso modo ce que j'appelle l'Empire Bolloré.
Oui, alors ça...
En tout cas, c'est une information intéressante.
Oui, ça a été fait. Alors, je ne pourrais plus vous dire, il faudrait retrouver la source de ce graphique, qui n'est pas forcément très facile à lire, d'ailleurs.
Non, non mais il se trouve que je sais, donc...
Voilà, que j'ai décidé d'imprimer. Effectivement,
oui.
Je l'ai affiché sur la...
Oui, c'est bien, savoir.
La porte. Je trouve que c'est important à savoir. Alors... C'est comme tous les environnements professionnels, industriels. On peut être client, usager et pas s'intéresser à ce qu'il y a derrière. Bon, bah là, je m'adresse peut-être à certains lecteurs qui seraient curieux de savoir qu'est-ce que je lis quand je lis un livre ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Ouais, ouais.
Hein, ça veut dire quoi ? Acheter tel livre, lire tel livre, telle maison d'édition, qu'est-ce que ça signifie ? Aujourd'hui, en choix économique, en choix sociaux, en choix civilisationnel, pour utiliser un grand mot, mais bon, voilà.
Alors, pour mettre un peu de légèreté dans notre entretien avant de reprendre, je vais vous proposer de jouer à un petit jeu. Si ça était une boisson, ça serait quoi pour vous ?
Si c'était une boisson, ça serait un pastis, évidemment.
Si c'était un spectacle.
Même si je n'en bois jamais. Un spectacle. Une gerbe.
Une gerbe de fleurs ?
Non, une gerbe d'eau.
Ah, une gerbe d'eau, d'accord, oui. Une fontaine ?
Je pense à un jouteur qui tombe dans l'eau.
Ah oui, c'est tout à fait... Ah oui, un jouteur qui tombe dans l'eau.
C'est une gerbe, on appelle ça une gerbe.
Ah, je ne savais pas. Eh bien, j'ai appris quelque chose. Dites-moi, si c'était une fleur ?
Une fleur ? Il n'y a pas beaucoup de fleurs à 7, hein. C'est compliqué.
Non, mais pas forcément des fleurs de 7, hein. Si la ville était une fleur...
Oui, j'ai compris votre question.
Voilà.
Je meuble. une rose des sables ?
Oui. Et alors, là, j'ai une question que je ne peux pas ne pas vous poser, si c'était un livre.
Si c'était un livre. À l'histoire sans fin.
D'accord. Et si c'était une musique ?
Si c'était une musique. Si c'était une musique. Oh là là, vous me posez une colle. Je ne sais pas.
Si c'était une musique, hein, ça serait quelle musique, hein ? Vous avez quoi dans la tête quand vous pensez à ça, hein ? Le silence.
Oui, le silence de la mer, voilà, très bien.
Ah, le silence de la mer, mais c'est difficile. Voilà, donc vous n'avez pas de musique
là,
qui vous
vient. Là, tout de suite, non, non, non.
Bon, alors on va laisser passer la musique, hein, d'accord ? Parce que le jeu, c'était que vous disiez...
Eh oui, j'imagine.
C'est pas grave, c'est pas grave. Alors dites-moi, on va recommencer. Comment ? On n'a pas la musique. Bon, donc dites-moi, indépendamment de la librairie, alors et de votre travail, c'est devenu quoi pour vous au fil du temps ?
Reposez-moi cette question.
Je veux dire, indépendamment de votre travail à 7,
oui.
La ville est devenue quoi pour vous au fil du temps ?
La ville ou
oui.
La vie ? La
ville, pardon.
Vous me demandez comment la ville a changé ?
Non, pour vous.
Depuis que j'y suis installée ?
Oui. Comme,
ou quelle est la place de la ville pour moi, dans ma vie à moi ?
Voilà, quelle est la place de la ville pour vous ?
Alors... C'est une bonne question. Au début, quand je suis arrivée à 7, j'ai travaillé beaucoup, je me suis beaucoup consacrée à la librairie. Donc la ville était là, mais plutôt en paysage, en décor. J'ai mis du temps, la rencontre avec 7 a mis du temps à se faire.
D'accord, parce que vous n'êtes pas venue pour la ville, vous êtes venue pour la librairie.
Voilà, je suis venue pour travailler.
D'accord.
Je suis venue pour travailler dans un environnement qui, évidemment, était extrêmement séduisant.
Ah bon, pourquoi ?
vivre au bord de la mer, ouais, dans une ville moins que moyenne, c'est-à-dire oui, moins de 50 000 habitants,
oui,
c'est un luxe.
Oui.
C'est un luxe.
Oui.
Oui, cette oui, lumière, c'est un peu bête à dire, mais quand je quitte Sète et que je me promène en France, dans des villes plus grosses, plus petites, voilà, et que je reviens à Sète, je me dis, mon Dieu, mais quelle chance nous avons. Et Dieu sait que je suis critique à plein d'endroits sur ce qu'est Sète, ce que représente Sète, la façon dont on utilise l'image de Sète, les projets qui peuvent être menés à Sète. Voilà, il n'empêche que malgré ce, je reste quand même conscient de la chance que j'ai de vivre dans cette ville, de par sa taille, de par sa lumière, de par sa proximité de la Méditerranée et de la région qui l'entoure.
Enfin, oui, et puis parce qu'elle est, elle a quand même un avantage extrême, c'est d'être coincée entre la Méditerranée et l'étang. C'est pas rien, ça. C'est vraiment c'est quelque chose d'assez singulier, puisqu'on l'appelle l'île singulière.
Oui, oui, d'ailleurs, au départ, ça fait peur. Je me souviens que le père de mon fils était là, oh mon Dieu, lui n'était pas à Sète, et il avait très peur de s'installer à Sète. Il disait, mais on peut pas partir de Sète, tu te rends pas compte.
Non.
Comment on sort de cette ville?
Absolument.
Effectivement, mais je pense qu'il est nécessaire de le faire. Il est nécessaire de sortir de Sète régulièrement.
De Sète, ouais, oui, un petit peu, oui, oui. C'est vrai que c'est vrai. Quand je me rappelle une fois quand j'étais adolescent avec des amis, des copains, vous savez, bêtes, vous savez pas quoi faire. On avait rêvé à faire un hold-up, comment dirais-je, en bloquant une ville. Et Sète, on pourrait faire ça, parce qu'il y a une entrée et une sortie. Si vous bloquez l'entrée, si vous bloquez la sortie, on ne peut plus bouger.
Des blocages, il y en a régulièrement, ça s'appelle les bouchons de sortie et d'entrée de Sète. Voilà, c'est des choses que plein de gens vivent quotidiennement quand même.
D'accord. Et donc, vous vous êtes habitué.
Alors, je ne me suis pas forcément habituée, mais j'ai appris petit à petit, en me consacrant moins à certaines choses, notamment à mon travail, à changer de regard sur la ville, à voir la ville différemment et à me laisser séduire, en fait. Je pense qu'il y a eu un moment où j'ai pas voulu me laisser séduire parce que peut-être que je portais un regard trop analytique et j'avais peur de... Et finalement, elle a fini par m'avoir. Elle a fini par m'avoir.
Et comment elle a fait?
Elle a fait comme elle fait d'habitude. Elle fait rien, en fait. Elle fait rien d'extraordinaire. Elle est juste... Je lis un livre en ce moment où il parle d'une comédienne qui est comédienne sans faire de comédie et juste en étant ce qu'elle est. Et ça marche.
D'accord.
Ça marche jusqu'à un certain point, évidemment. Mais...
Alors, elle vous a séduit avec sa musique?
Vous retentez le coup de la musique?
Non, je ne sais pas. J'étais en train de me dire, tiens, pourquoi pas, maintenant, peut-être vous avez quelque chose. Je suis un homme un peu opiniâtre, parfois.
Alors, j'ai pensé à une chanson, mais je ne me souviens plus de son, son titre.
Ça va être difficile.
Mais ça va revenir.
C'est de qui la chanson?
Ça va revenir. Il faut juste que ça va revenir.
Ça va. Ben ouais. Écoutez, quand ça revient, vous me dites.
Ouais, vous
dis. Bon, donc, Sète, hein, vous vous êtes habitué, elle vous a séduit, ce qui est merveilleux. Mais en même temps, vous en venez aussi de considérer qu'elle avait quelques côtés qui pouvaient être considérés.
Ben, j'ai du mal à parler de la ville en
elle
tant que...
Elle a pas des qualités.
En tant qu'entité, oui. Voilà, la ville, qu'est-ce que ça veut dire, la ville?
Moi, je pense qu'une ville, ça a une personnalité, ça a un cœur. Je vais vous dire, j'ai failli écrire, alors j'en parle parce que c'est une chose qui me scandalise, mais c'est même pas des raisons politiques. En fait, je veux dire, j'ai failli écrire au maire de Sète pour lui dire, monsieur le maire, il faudrait que vous sachiez qu'une ville, ça a un cœur. Et bousiller son cœur en y faisant un parking, ça risque de tuer la ville. Je pense ça, qu'une ville, ça a une personnalité. Paris a une personnalité, Bordeaux a une personnalité, Marseille, je veux dire, alors Montpellier, je ne sais pas trop, parce que Montpellier est une ville compliquée. Alors peut-être qu'il y a des villes qui ont des personnalités, d'autres moins, mais Sète, je pense, oui.
Je ne vois pas forcément les... Oui, alors peut-être que... Je ne sais pas, si on se pose son regard de loin, on peut effectivement dire, oui, cette ville a un cœur. Mais quand on y vit, la ville, c'est une histoire, c'est des histoires, c'est des mouvements sociaux, des mouvements de population, c'est des choix politiques qui sont différents. Il y a plein de choses, quoi. D'accord.
Si on laisse la ville de côté en tant que personnalité, à ce moment-là, si on parle du devenir de la communauté qui y vit, donc ça fait un certain temps que vous y êtes, vous avez pu observer des évolutions positives, négatives, qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent pas.
Là, j'ai encore... j'ai pas appris parce que je le savais déjà, et je l'ai su de la même bouche que je viens de le réapprendre, c'est que je n'étais pas une vraie sétoise.
Ah.
Donc ça, ça me pose un problème.
Oui.
C'est que régulièrement, qu'on me dise que je ne suis pas sétoise.
Et pourtant, vous êtes là depuis longtemps.
Je suis là depuis 10 ans. Je suis venue pour y travailler.
Oui.
Je dirige une entreprise qui fonctionne bien, qui a 4 salariés, et ça va durer. J'ai un enfant, je vis à 7 dans le centre-ville, je paye mes impôts en centre-ville, je vote à 7.
Oui, d'accord.
Et je ne suis pas sétoise. Ça, ça me pose un problème, Yves.
Mais vous n'êtes pas sétoise, pourquoi ? Qui vous dit ça ? C'est vous qui sentez ça ?
Vous savez très bien qui me dit que je ne suis pas sétoise.
Laissez-toi.
Non, pas laissez-toi. Le maire dit ça.
Ah, mais le maire, c'est pas... Alors même s'il a l'impression de...
Le maire explique à des gens comme moi qu'il ne sent pas sétoise.
Ah tiens, big. Ah, c'est marrant, ça.
Alors, il me le dit pas à moi, personnellement,
oui,
évidemment, vous avez compris.
Oui, j'ai compris.
Mais quand il s'attaque à l'association Banc Public,
oui.
En expliquant ces gens-là ne sont
oui.
pas des sétois, alors, si on enlève de 7 tous les gens qui sont arrivés...
Il reste plus grand monde.
Ces 10 ou 20 dernières années.
Il reste plus grand monde.
Est-ce qu'on parle du cœur de 7 ? Est-ce qu'on parle de l'âme de 7 ?
Mais en plus, Sophie, enfin, le maire est... Excusez-moi, je ne connais pas ce monsieur, ça, mais j'en entends beaucoup parler parce que, voilà, mais je ne le connais pas, donc ça, il m'est d'une certaine manière indifférent. Mais enfin, quand même, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il règne sur la ville, si j'ai bien compris. Et une partie du fait qu'elle a évolué et que des gens nouveaux sont arrivés tient à lui. Alors, il ne peut pas reprocher à une nouvelle population d'être arrivée, puisque c'est lui qui l'attire. Il a une politique qui fait que ça a attiré des nouvelles personnes.
Vous avez raison.
Donc, il sait pas, il se contredit.
Ah oui, il est dans le paradoxe. Il est dans un D'accord. paradoxe. Mais oui, ça s'appelle la bêtise, hein, à ce niveau-là.
Oui, c'est possible, ça peut arriver. Mais c'est-à-dire, j'ai une petite manière de voir les choses qui fait que. Je pense que tout le monde est également intelligent, au point de vue de l'intelligence, hein, ce que beaucoup de gens ne croient pas. Mais moi, je crois que oui. Après, ce qui fait la différence, c'est entre les gens honnêtes et les gens malhonnêtes. C'est un problème éthique. C'est-à-dire, il y a des gens intelligents, honnêtes, et il y a des gens intelligents, malhonnêtes. Je ne sais pas dans quelle catégorie Monsieur le maire de Sète se range, mais en tout cas, je sais ça. Ce qui était intéressant et ce qui fait que moi, ça m'a attiré aussi Sète, c'est son passé. C'est rare aussi les villes, indépendamment du fait qu'elle est coincée entre la mer et les temps, dans lesquels il y a des bateaux. Vous promenez sur les quais et vous voyez des bateaux, alors des petits à certains endroits et des gros à d'autres, des bateaux qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'intérieur d'une ville.
C'est quelque chose qui est très surprenant et qui surprend toujours les gens qui viennent me rendre visite, c'est la présence des thoniers en permanence sur le canal royal où on est au cœur d'une activité... réel, quoi. Voilà, on est au cœur d'un système économique et il est visible et c'est beau parce que c'est rare.
Et moi, j'ai mis longtemps à comprendre que Sète était quand même le deuxième port de France sur la Méditerranée, après Marseille. Donc c'est un port qui draine...
Sachant que les ports français sont tout petits à l'échelle mondiale et que ça veut plus dire grand-chose de dire ça, mais...
Ah, c'est bien, mais pour...
Mais quand même.
Sophie, pour la Méditerranée, si. Je veux dire, il y a énormément de gens qui s'embarquent à Sète pour le Maroc, entre autres.
En termes de passagers,
Et oui. Et puis Sète est une ville de mixité, je veux dire. Moi, bêtement, j'avais cru que c'était la population espagnole qui était... Non, c'est les Italiens, je veux dire. C'est quand même un lieu de Brassage, c'est un port qui explique d'ailleurs un peu son histoire politique. Et donc, c'est étrange parce que mon épouse fait de la barque, fait rame à Sète, elle adore ça, c'est, voilà. Et longtemps, les gens qui ramaient avec elle la traitaient de parisienne. Alors qu'elle n'est absolument pas parisienne. Et donc, elle n'était pas contente. Donc, elle a dit, et vous venez d'où ? Alors, elle a découvert que une partie des gens qui la traitaient de parisienne ne venaient pas de Sète. Donc, elle leur a dit, alors moi, je vais vous appeler l'italienne. Ça s'est vite calmé. La musique vous est revenue ou pas ?
J'essayais de regarder, là, j'essayais de regarder sur mon téléphone. J'ai l'air dans la tête, mais...
C'est pas grave, hein. Voilà.
Ah, c'est dommage. Elle est très jolie, cette chanson.
Et vous ne savez pas l'auteur ? Eh bien, donnez l'air.
Non,
vous n'osez pas donner
l'air. La mélodie, non, j'en serais bien incapable. Ah mince,
ça va revenir, ça sera trop tard. Mais ce n'est pas grave, Sophie, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que vous espérez pour cette...
Alors, j'espère que, comme la mer, comme la marée, il va y avoir une espèce de, peut-être de reflux. Parce que effectivement, ce qui est problématique depuis quelques années, c'est cette accélération du tourisme. Alors, on est loin de l'hypertourisme de certaines zones du monde où elles sont. Oui. Voilà, c'est mort, c'est détruit, c'est fini.
Oui.
On n'en est pas là. Il faut aussi raison garder, mais quand même, quand on se balade dans les villes et qu'on voit des cadenas de Airbnb accrochés n'importe où, on n'a pas envie de ça parce qu'on a envie que notre ville, elle ait d'autres ressources économiques pour ces générations à venir que de vendre des surfaces, des petites surfaces les plus chères possibles au mètre carré sur le moins de jours possible.
Oui.
C'est quand même un projet économique qui est quand même pas foufou. Enfin, je veux dire, c'est comment on peut bâtir un projet de ville. Comment on peut imaginer le cœur d'une ville puisse continuer à battre sainement avec un tel projet économique enfin, c'est pas un projet économique de la vendre à Airbnb.
C'est un certain projet économique.
Oui, mais c'est pas sain. C'est pas un projet sain.
Ça, c'est une autre question.
Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que la ville, peut-être, cherche d'autres ressources pour être plus accueillante.
Oui.
Avec le mot accueil, avec un grand A.
Oui.
De tous et toutes, un vrai projet d'accueil qui soit à la fois sain et juste et beau et ambitieux. Et voilà, évidemment qu'il y a du tourisme.
Oui.
Je ne dis pas
Mais
pas que, pas uniquement.
Moi, je suis... Sète est la seule ville de toute ma vie que j'ai choisie. C'est-à-dire, j'ai toujours été dans des endroits que je n'avais pas choisis parce que mes études, n'importe quoi. Et puis, je suis un homme du Sud, puisque j'ai vécu longtemps mon enfance à Arles. J'avais juré que je retournerais finir ma vie à Arles, pour des raisons... bref, je n'ai pas choisi... C'est pas Arles. Et j'ai choisi ça sur un coup de tête. Et je trouve que cette ville a plein d'avantages, plein de choses intéressantes. Mais je m'étais toujours dit, l'été, Yves, tu t'en vas. Tu t'en vas pour ne pas supporter d'abord de trop grande chaleur, parce que je n'aime pas l'air climatisé, donc ça c'est mon côté un peu rétrograde. Et puis en plus, le tourisme, l'avalanche de touristes, ça va, je préfère aller ailleurs, voilà. Alors Sophie, on va faire une chose que je n'ai jamais fait encore, vous êtes la première avec qui je vais faire ça, puisque vous n'avez pas choisi...
Si, j'ai trouvé.
Ah, mais ça alors, parce que j'allais vous... Alors vous avez trouvé quoi ?
Ça s'appelle Jardin d'hiver d'Henri Salvador.
Ah, mon jardin d'hiver. Ah, c'est une merveilleuse chanson.
N'est-ce pas ?
Donc, on va laisser notre camarade trouver Henri Salvador et Jardin. Et pourquoi Jardin d'hiver ?
Il faudrait que je réfléchisse à pourquoi, mais elle m'est apparue. Enfin, vraiment.
D'accord. C'est une très belle chanson.
La musique m'est apparue au cours de notre conversation.
Vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir, indépendamment du fait que je suis content qu'on ait trouvé une musique, mais parce que j'adore Salvador avec Jardin d'hiver. C'est
elle
bon,
très
on
belle,
peut l'écouter. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci, Sophie.
Merci, Yves.
Et on va terminer avec Henri Salvador.
Je voudrais du soleil vert. Des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin, là je t'embrasse.